Afrique Caraïbe avec Fusion Splat au micro. Mon invité avec moi déjà en studio pour venir nous parler de son parcours artistique. On va toucher un peu de tout, hein, sa vie personnelle. Non, je ne vais pas aller là. Elle ne fait pas seulement que de la musique, elle ne fait pas que chanter, elle fait plein d'autres choses encore. C'est une artiste multidisciplinaire. C'est ce qui fait que j'ai dit on va parler de tout et de rien en même temps. Voilà. C'est pas pour parler ça, parler simplement de son single. Voilà, mais d'autres choses. Elle est très impliquée, elle est dans les médias, elle fait de la radio aussi. Un peu de tout. Très impliquée. Voilà. Et puis après ça, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir quelqu'un qui vient me parler de son premier album. Il a fait une collaboration avec pas mal d'artistes ici durant au cours de ce premier album d'ailleurs. Il y a une seule pièce où il a chanté seul, toutes les autres pièces avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la rencontre des cultures quoi, montréalaises qu'il a mis ensemble. Alors. Bonjour Claude. Pour Bonjour. Ceux qui la connaissent depuis Belle Lurette, c'est Claudine Hilaire. Claude, c'est son nom d'artiste. Voilà, K-L-O, Claude, comme ses amis l'appellent, peut-être Claude.
Oui, c'est vrai.
Quelque chose comme ça.
Comme vous m'appelez, Claude.
Voilà, Claude, tout court. C'est trop long, Claudine Hilaire.
trop long.
Oh, trop long, Claudine Hilaire. Claude, tout court. Alors, merci d'être là.
Merci à vous de me recevoir.
Pour parler de Benito, qu'on va écouter un peu plus tard. Alors, toi et la musique, la chanson. Ça date de quand?
2-3 ans. Je sais que c'est cliché, je pense que tout le monde dit ça, mais moi, à l'âge de 2-3 ans, ma mère, ma défunte mère, pourrait corroborer
Pourquoi
le tout.
Pourquoi? C'est pas cliché.
Bien, parce que les gens vont souvent dire ça. Je chante depuis mon plus jeune âge, mais c'est vrai.
Et souvent c'est vrai.
Souvent, c'est vrai. Hein?
Oui.
J'avais 2-3 ans, je passais des heures devant la télé fermée. Mmh. Et mes tantes me disaient, elle était fermée parce que je passais à la télé, donc je la fermais pour avoir mon reflet dans la glace. Je trouve ça quand même puissant. À un si jeune âge, de penser okay. comme ça. Et je passais des heures à chanter avec un crayon en guise de micro. Et
tu t'improvisais un micro avec ton crayon.
Oui.
Wow.
Et une serviette sur la tête pour des cheveux longs. Et j'ai fait ça des années.
Elle se voyait déjà sur scène. Ouais.
Je ne mettais pas des mots sur quoi que ce soit, mais j'ai fait ça des années. Je ne peux pas dire que je me rappelle à l'âge de 2-3 ans, mais je me rappelle 6, 7, 8 ans. Ah oui, devant le miroir, je faisais aussi. Après, j'ai évolué. À l'adolescence, j'avais un tourne-disque. Et là, j'ai eu mon premier 33 tours de cassave à 17 ans.
Oui.
Et là, je l'ai écouté en boucle et j'ai pratiqué ma voix avec Jocelyne Berroir. Ensuite, il y avait les 8 tracks. Vous vous rappelez des grosses cassettes, et là, Nicole Martin, Ginette Renaud, Chantal Paris. Je pratiquais ma voix avec ces chanteuses-là sans savoir ce que je faisais. C'était pas une stratégie, mais j'essayais d'atteindre la note, j'essayais d'atteindre le timbre de voix et tout. Donc, je me suis pratiquée pendant des années avec ces chanteuses-là.
Mais est-ce que tu savais que plus tard, tu pouvais avoir le service d'une prof ou bien d'un prof de chanson, de chant, quelque chose comme ça, de ce genre?
Non, parce que faut dire qu'en parallèle, j'étais élevée dans les Témoins de Jéhovah. Alors, la chanson, pour moi, avec toute la gloire qui y est reliée, j'étais déjà freinée dans ma tête. Donc, je le faisais sans...
Ça passe pas dans ce milieu-là.
Non, du tout. Parce que c'est comme de l'adoration. Donc, je le faisais sans attente, sans stratégie. Et même, je le dis souvent, ma réussite pour moi, c'était d'avoir mon mari, mes enfants et tout... Donc, même quand j'ai laissé les Témoins de Jéhovah à 19 ans environ...
Donc, le mariage était mis en premier plan.
Absolument. Et dans mes pensées limitantes de l'époque...
Est-ce que c'était considéré comme une église?
C'était une secte à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est considéré, mais je ne regrette pas d'être passée par là, honnêtement. Ça m'a donné de belles valeurs et j'aimais les gens là-bas. Vous savez, quand on n'a connu que ça, moi, j'avais 3 ans lorsque mes parents ont embrassé cette religion. J'étais pas malheureuse, mais oui, on me demande est-ce que j'ai fait du porte-à-porte. Absolument, j'ai tout fait. La seule chose que j'ai pas fait, c'est me faire baptiser.
C'est la raison pour laquelle j'ai pas demandé comment tu es arrivée là, parce que je sais que c'est les parents. Voilà, si ses parents, tes parents n'étaient pas là, tu n'allais pas être là-bas à 2 ans. C'est pas possible.
Exactement.
Voilà.
C'est sûr.
C'est pourquoi j'ai pas demandé comment tu es arrivée là.
C'est sûr.
Ça dit que c'est la famille.
C'est sûr.
Effectivement. Waouh. C'est ce qui fait que tu t'es mariée à...
Ben, je me suis mariée... Non, je ne me suis pas mariée jeune, en fait. Je me suis mariée Oui, fin vingtaine, parce que j'attendais de trouver l'homme qui comblait tout mon checklist, si on peut dire. Et puis, je pensais avoir trouvé le prince, mais finalement, c'était pas le prince. Mais je suis quand même reconnaissante parce que j'ai mes deux beaux enfants qui ont 23 ans aujourd'hui, des jumeaux.
Tes jumeaux?
Pour lesquels, ben, ils sont ma vie. Je suis très reconnaissante pour mes enfants.
Alexandrie et Soraya.
Oui, vous vous en rappelez.
Comment ils sont?
Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ils sont beaux à l'intérieur et à l'extérieur, belles valeurs. Je suis fière de ma réussite parce qu'ils ne sont pas tombés dans rien, aucune dépendance, aucune... Ce sont de bons jeunes adultes, vraiment, avec de belles valeurs.
Tu leur inculpes de belles valeurs.
Bien, je l'ai fait, mais il faut dire qu'il y a des parents qui incultent. J'ai fait, mais il y a plein de parents qui le font puis ils n'ont pas les résultats, vous comprenez? Moi, j'ai la chance de les avoir. Je trouve qu'on est dur avec les parents. Mais oui, je les ai élevés avec de belles valeurs. Ma famille aussi, parce qu'ils font un village. J'ai été monoparentale, oui, mais j'avais quand même une famille qui avait toujours... On avait la même ligne directrice, tout le temps, tout le temps. Donc, que tu passes quelques heures chez ta tante, chez ma sœur, c'est la même chose. Et ils sont solides, je trouve, comme enfants, bien qu'ayant été élevés dans une famille monoparentale. Ils sont très solides, oui.
Cette histoire de famille monoparentale, là, vraiment, c'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir. C'est pas...
Non.
C'est pas donné à tout le monde.
Non.
Il faut d'abord, en tant que personne, que ce soit un homme ou bien une femme, avoir atteint une certaine maturité.
Je sais pas.
Une certaine maturité. Je suis mal placé pour en parler, mais je vois autour de moi.
Non, je veux pas vous contredire, c'est juste que
parce
honnêtement...
Parce qu'il y a des gens qui sont parents sans être même eux-mêmes parents.
Moi, j'ai pleuré beaucoup parce que je me disais pourquoi je me ramasse avec deux enfants seuls. Ça n'a jamais été mon idéal, mais je les aimais. Est-ce que j'étais mature? Je ne sais pas, mais je n'avais pas le choix. Ils m'étaient imposés et je faisais tout avec eux, épicerie, tout seul, tout le temps avec eux. Des fois, je pleurais puis je me disais jamais devant eux. Mais je pense qu'il faut juste passer au travers. Et puis, si je peux me permettre de jamais pleurer devant les enfants, de jamais perdre patience avec eux, du moins de prendre les mesures nécessaires pour le faire. Moi, j'ai refusé beaucoup de promotions au travail parce que ma priorité, c'était eux. Et quand je dis ma priorité, c'était eux, c'est pas juste en termes de temps, 24 heures, c'est mental. Je savais que mon verre était déjà rempli. Alors, je travaillais de 9 à 5. D'ailleurs, je suis rentrée au gouvernement pour avoir cette paix d'esprit. Mais je faisais rien avant, rien après, pour pouvoir jouer avec eux, être présente.
Tu refusais des promotions professionnelles pour le bien-être de tes enfants.
Oui. Wow. J'ai fait des choix. Et je n'ai jamais travaillé à plus de 10 minutes de où j'habitais. Donc, quand j'entends les parents et la vie où Dieu, la Providence, m'a aidée en ce sens. Mais c'était... clair pour moi, j'avais un certain rayon, il fallait que je travaille. Et j'ai eu de bons emplois, honnêtement. Donc, est-ce qu'on peut parler de chance? Moi, je pense que dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose pour les bonnes raisons, la vie nous aide. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de patience pour les gens qui se plaignent. Parce qu'on peut se plaindre deux minutes, comme on dit en anglais, pity party, ça fait du bien. Mais après, OK, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il faut faire un sacrifice. J'ai fait sacrifice des finances pour le bien de mes enfants. Mais j'étais pas pauvre quand même, je suis rentrée au gouvernement. C'était pas mon premier choix de travailler au gouvernement. Pourtant, ça fait 22 ans que je suis au gouvernement. Je suis rentrée, mes enfants avaient un an.
C'est le côté sécurité?
Pour mes enfants, financier. Oui, c'était facile.
Pas pour toi?
Bien sûr.
Mais pour toi,
c'est ça qui m'a fait.
OK, d'accord, mais tu mets les enfants...
Parce que c'est pour eux, parce que moi, le gouvernement, je pensais que c'était plate en bon québécois de travailler au gouvernement. Donc, moi, à chaque 3 ans, j'ai eu des beaux postes dans des entreprises privées. Dès que je stagnais ou qu'il n'y avait pas de promotion ou d'avancement, je laissais. J'ai toujours été comme ça pour les emplois. Puis le gouvernement, je me disais, oh, je vais travailler avec des vieux croutons. En tout cas, c'était ça mon idée. Mais quand j'ai vu que j'étais seule avec mes enfants... Des vieux croutons, des personnes qui font la routine. Moi, je suis tellement pas à routine. J'avais une idée péjorative du gouvernement.
Si tu restes jusqu'à la retraite...
Moi, je ne viendrai jamais une vieille croutonne.
Donc, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle la musique t'a tendu ses bras et tu as attendu longtemps avant de lui dire « oui, je viens avec ».
Oui, oui.
Quand est-ce que tu as pris cette décision?
J'ai pris cette décision.
De tes gimmicks là, devant le miroir. Là, mais...
Ben, j'ai envie de remercier certains artistes comme Pierre-Michel Ménard qui, même quand je vivais des déboires personnels, de temps en temps, il m'appelait pour un contrat. Puis ça me faisait toujours comme... Et je t'ai pas oublié, Claudine. Oublie pas que tu sais chanter, oublie pas. Je le salue parce qu'il savait pas ce que je vivais, mais ces petits coucous comme Fayol Jean, des petits contrats pour des films, on ne m'oubliait pas dans le milieu. Des gens comme Moïse Mounian qui m'écrivait « Est-ce que tu vas revenir sur scène? » Il me faisait ne pas m'oublier. Je suis émue quand je le dis, mais il savait pas ce que je vivais. Quand j'ai commencé à penser, en toute honnêteté, à lancer cet album, c'est à l'approche de la cinquantaine. Parce que, vous savez, quand on est jeune, on regarde les projets qu'on fait, on en rajoute beaucoup parce qu'on a tellement de temps. Puis plus on avance en âge, là, on se rend compte que, hey, j'en ai moins à vivre, assurément, à moins que je vive 200 ans, ce qui ne sera pas le cas, j'imagine. Mais on a moins de temps à vivre que ce qui nous reste. Et donc, je me disais, si je ferme les yeux... Et j'approche de mes derniers souffles. Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli, mis à part mes enfants? Tout de suite, l'écriture et la musique. C'était clair et limpide. Et à l'approche, en fait, j'ai célébré mon 50e anniversaire avec Festival Afro-Monde il y a 2 ans. Et j'ai gagné, j'ai remporté. Et ça m'a fait comme, wow, you still got it, Claudine. Et de là étant, là, j'ai pris rendez-vous avec le studio et tout pour faire cet album. Oui. Voilà.
Cet album qui va sortir cette année?
Le 25 septembre, exactement.
Et tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un single.
Oui, Benito, qui est sorti depuis le 10 avril
2026.
Et qui fait un tabac, je dois le dire. J'ai aucune humilité quand je parle de Benito. Zéro!
Mathieu, c'est la seule pièce qu'on va écouter. Donc, on écoute quelques secondes, on revient, on reprend. Comme ça. Allez, on y va, on écoute Benito. C'est la voix de Clo que vous entendez comme ça avec Benito. Waouh. Alors, ouais, le 25, il y a encore quelques mois devant nous.
Absolument.
Quand même, avant d'arriver là, avant de pouvoir écouter toutes les pièces musicales qui sont sur cet album-là.
J'ai hâte.
Ça, c'est un avant-goût, oui, moi aussi. Je viens de découvrir tout l'album, mais avec Benito déjà, c'est quelque chose qu'on met à la bouche dans un premier temps et puis on se dit « waouh ».
Merci.
On a tout ça de découvrir ce qui va venir après.
Merci beaucoup.
Toutes les autres pièces musicales. Et puis je sens l'authenticité musicale d'ailleurs, professionnelle. On sent que ça sort d'un studio très... On entend tous les petits instruments, tous les petits trucs de l'époque.
Oui.
Pas de l'époque actuelle.
Non.
Notre temps.
Pas d'intelligence artificielle, pas d'ordinateur, non.
Une seule personne en studio, il fait un album.
Oui.
C'est maintenant, là. Avant, c'était pas comme ça.
Non.
Chaque instrumentiste a son instrument.
Et cet album, si je peux me permettre, c'est très précieux parce qu'à l'époque, c'était le studio de Montréal.
Ah
beaucoup
oui.
d'artistes passaient par ce studio Tropical Groove. Et donc, ces gens-là qui jouaient comme Black Parents, qui a collaboré Barnev bien avant qu'ils chantent avec Céline Dion et plusieurs autres, venaient signer un contrat pour leur projet. Mais juste avant de quitter...
C'était le studio.
Ben oui, Rodrigue disait, hey, peux-tu faire un petit... Petite affaire, là, pour une artiste. Donc, c'est tout cet amalgame-là de musiciens qui ont fait des choses, souvent bénévolement, qui donnent cette beauté. Je tiens à le mentionner parce que, pour moi, c'est de la magie.
Oui, oui. Là, il s'est installé à Miami.
À ma connaissance, oui.
OK.
Mais le studio est toujours là, géré par d'autres personnes.
Géré par
Tropical Groove, oui. Rodrigue Alcindor, je veux le saluer parce que c'est un génie musical.
Wow.
Oui.
Alors, comment réagit ton entourage? Pour ceux qui ont la chance d'écouter des éditos, comment ils ont réagi?
C'est extraordinaire. J'ai chaud parce que j'avais aucune attente. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est que je m'amuse avec excellence. Ça veut dire que je m'entoure au meilleur de mes capacités. Je fais les choses comme là, je travaille, mais j'ai pris 2 heures pour venir vous rencontrer. Ma patronne sait ce que je fais. Et donc, je n'avais pas d'attente. J'ai signé avec Tolalito pour tout ce qui est médias, pistonnage radio, j'ai mon conseil artistique, aller à fond la caisse. Et on voit, parce qu'à la base, c'est un peu un projet égoïste, autofinancé, je tiens à le mentionner, parce que je l'autofinance de A à Z. Donc, je partage quelque chose qui me tient à cœur. Mais cela étant dit, la réceptivité, elle est tellement fantastique. Puis là, il y a des chiffres et tout, Spotify, les téléchargements, c'est extraordinaire. Mais sur les réseaux sociaux, les gens qui m'écrivent, qui m'envoient des vidéos en conduisant, qui écoutent Benito en boucle, qui font écouter Benito à leurs collègues de travail, tellement que j'ai décidé de partir un trend, excusez-moi l'anglicisme, où je dis aux gens, envoie-moi ta vidéo. Et je mets leur vidéo sur ma grille Instagram et on grandit ensemble dans mon univers musical. Parce que les gens québécois, algériens, arabes, espagnols, haïtiens, congolais, les gens dansent Benito. Et je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas d'attente parce que je ne veux pas être figée, je veux rester flexible, mais je ne m'attendais certainement pas à ça en si peu de temps parce que ça fera 2 semaines que l'album est sorti bientôt. 3 semaines, oui, 3 semaines. Et les chiffres sont extraordinaires. Mmh. Oui, vraiment. Donc, merci Seigneur, merci la vie. Ça me fait plaisir.
Quelle est la place de la musique dans ta vie?
Oh, elle a une grande place. Si je vous disais combien de fois... Combien de fois quand j'avais de la peine avec les enfants et tout, parce que la vie n'a pas été facile. Hein? Quand on voit quelqu'un sourire, resplendissante, ou un homme aussi, on pense que, oh, elle est chanceuse! Non, être heureuse, c'est un choix. Et je me réveille souvent la nuit. D'ailleurs, j'ai des écouteurs un peu partout à la maison, parce que la nuit, quand mes enfants dormaient, je mets mes écouteurs et je danse. La lumière fermée, mais je danse. Donc, la musique a une très grande place. Je pleure aussi avec des paroles qui viennent me chercher. Il y a des chansons que j'ai écoutées en boucle dans certaines époques de ma vie qui me permettaient soit de rire, soit de pleurer, d'évacuer les émotions. Donc, la musique est toujours omniprésente dans ma vie et pas juste parce que moi, je chante.
Est-ce que la musique était un calmant pour toi à l'époque?
Déjà, absolument.
Tu as été marqué par cette période de violence conjugale.
Absolument, toujours. L'écriture et la musique, toujours ensemble, un mariage. C'était un couple dans ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis honnêtement, je ne savais pas à quel point c'était dans ma vie jusqu'à ce que je fasse la croissance personnelle. Puis là, tu réalises que, mon Dieu, une chance, je n'ai pas pris de drogue ou d'alcool. Parce que des fois, la douleur, on se sent perdu, puis on se demande pourquoi, puis... Je ne justifie pas les personnes dépendantes, mais je peux comprendre comment on ne sait juste pas comment arrêter cette douleur. Mais moi, mon exutoire, c'était la musique et l'écriture. Mais je ne le savais pas. Mais ça m'a permis de m'accrocher tout le temps, tout le temps.
Wow.
Le rêve, hein, parce que le rêve est lié à la création aussi. Écrire, c'est créer. Chanter, c'est créer. Les paroles des musiques, c'est moi qui les ai écrites, par contre, sur l'album La Perle des Antilles, parce que c'est le nom que l'album aura, La Perle des Antilles.
C'est tout ça qui t'a permis d'avoir cette plume, ce genre de plume engagée, on peut dire ça.
Oui.
Tournée essentiellement vers l'humain.
Toujours. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses de plus important que l'humain et la connexion avec l'humain? Rien. Et les gens, ils ont tellement des masques, et je le dis avec amour, sans jugement, ça me fait de la peine. Parce que je lis beaucoup le langage corporel, beaucoup plus que ce que les gens disent. Alors, les gens disent des choses et je ne les juge pas, j'ai de la peine. Parce qu'ils se sont encabanés, ils se sont emprisonnés eux-mêmes. On est en Occident, hein. Il y a des endroits où les gens n'ont pas le choix. Et c'est vrai.
Oui.
Pas ici. Mmh. Ici, on a le choix. Alors, moi, quand j'entends quelqu'un, ou plutôt que je vois une personne qui est triste dans son emploi, dans sa relation, je me dis pourquoi on a juste une vie à vivre. Est-ce que les gens réalisent vraiment qu'on a juste une vie à vivre? Moi, je le réalise tous les jours. Puis non, c'est pas vrai que je vis la vie comme si c'était la dernière journée, parce que ça, on peut pas. Si on me dit que c'est ma dernière journée aujourd'hui, je sais ce que je vais faire. Mais pour vrai, je vis dans la gratitude au quotidien. Je me lève le matin, je suis déjà heureuse parce que je vois, j'entends, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Pourquoi je me plaindrais? Pourquoi je me plaindrais? J'ai un emploi, j'ai un toit, mes enfants sont en santé. Pourquoi je me plains? Parce qu'il pleut? parce qu'il fait froid.
Non, c'est parce que tu as eu aussi la chance de pouvoir faire un travail personnel sur toi, le développement personnel.
Oui.
Comme on l'a peut-être donné le trendy maintenant, le développement personnel.
Mais tout le monde peut le faire.
Non, c'est pas parce que tu as pu le faire ou bien tu t'es intéressé. D'abord, c'est une question de curiosité. Qu'est-ce que c'est?
Ben moi, j'ai été chanceuse, je dois le dire. C'est une entreprise. J'ai fait du marketing de réseau il y a 12 ans. Et au-delà de l'argent, avant l'argent, c'est vraiment l'entreprise qui m'a amenée à la croissance personnelle, je dois le dire. Et où vous avez raison, c'est vrai. Je pense pas que c'est de la chance, mais je pense qu'il faut être réceptif. Parce qu'au moment où on commence la croissance personnelle, c'est sûr que j'ai commencé à lire des livres, etc. Mais vous pourriez me dire une phrase cet après-midi, puis je m'en vais avec et elle change le cours de mes pensées et de ma vie. Quand on est ouvert à la croissance personnelle, tout le monde devient un professeur, sans qu'on le cherche, parce qu'on est ouvert.
C'est une question de curiosité aussi. Est-ce qu'on a envie de savoir autre chose, en dehors de ce qu'on sait déjà?
C'est vrai. Quand on en est conscient. Parce que c'est sûr que quand on a des problèmes, on n'est pas en train de se dire oh, « La croissance personnelle, vivement, j'ai du courage! » C'est pas ça qui se passe. Mais c'est un beau, livre après l'autre, une discussion après l'autre, puis on se rend compte qu'on a changé. Parce que le monde ne change pas. Mais nous, parce qu'on a changé, le monde change.
Oui, mais c'est ce qu'on attend la plupart du temps de certaines personnes. Mais lui, ou bien elle a changé, ou bien elle est toujours comme ça. Mais le changement, tu l'achètes chez toi, mais pas chez les autres.
Oui, exactement.
Ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'amour personnel, qui vont aller chercher l'amour dehors. Mais si tu ne l'as pas, comment tu peux le partager, quoi?
Et c'est triste.
Au fait, voilà, c'est cette tristesse-là qui fait qu'il y a des gens...
Oui, qui... et s'ils ne sont pas prêts, même si je leur dis, et je le fais des fois, mais doucement, parce que je sais qu'on n'est pas prêt à entendre ou à aller même chercher ou voir la vérité, ben même si quelqu'un le dit, parce que c'est facile pour les autres de le voir, mais quand on est à l'intérieur, puis on ne veut pas le voir, on n'est pas prêt, ben oui. c'est le cheminement et les gens externes doivent le respecter.
Mmh. On va écouter encore au moins une minute pour terminer avec Benito, bien sûr. Hein? C'est la voix de Clo que vous entendez comme ça. Voilà, Benito, ce single qui sort quelques mois avant tout l'album qui va venir en septembre 2026, bien sûr. J'ai bien. Voilà, j'ai bien de découvrir ça. Comme tout le monde, pour ceux qui ont pu découvrir Benito, que du bonbon, ouais. Voilà.
Du bonbon, j'aime
comment
ça.
Comment marche ton entreprise de traduction Coreta?
Oh, j'ai fermé ça depuis... J'ai arrêté Coreta quand mes enfants ont commencé l'école parce que c'était une entreprise que je développais la nuit, en fait, qui me faisait du bien en tant que femme parce qu'il fallait que je continue à exister. Mmh. Et quand ils ont commencé la première année, en fait, quand il y avait des devoirs, je me devais d'être disponible. C'était pas comme aller les prendre à la garderie, on joue, puis... Donc, j'ai fermé Coreta quand ils avaient 6 ans, donc en 2009.
Oui. Mais tu continues à faire des coachs d'affaires, des pères... Comment oui. dirais-je, la radio, tu continues d'ailleurs, oui. tu as ton émission.
Blabla, que je co-anime avec Natacha Blanchard mmh. tous les samedis.
Des conférences que tu continues aussi.
Oui. oui, beaucoup sur la violence conjugale ces derniers temps.
Oui.
C'est important pour moi de continuer à sensibiliser les gens, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe plus.
Ça existe toujours, oui, malheureusement.
Oui, je veux surtout insuffler du courage aux femmes de ne pas avoir peur de partir. Mmh. Parce que si j'ai réussi, moi, j'ai rien de spécial, là. Je suis pas fantastique, extraordinaire. Mais je le dis sans jugement. C'est très important que je le mentionne, mais je pense qu'en le répétant, puis surtout en n'oubliant pas d'où je viens, parce que souvent, il y a beaucoup de femmes autour qui l'ont vécu, qui ont réussi, puis c'est pas marqué sur le front, hein. J'ai vécu la violence que je garde. Et les gens, quand tu racontes, ils restent très... ils sont estomaqués. Toi? Il y a tout un préjugé, une stigmatisation et une idéologie de à quoi ressemble quelqu'un qui vit la violence conjugale encore aujourd'hui en 2026. Donc, je veux démystifier ça. Mais c'est rien contre mon passé. Mon passé est réglé. Ni l'homme même, c'est rien.
Ça dépend d'abord de comment la violence conjugale leur a été expliquée.
Ben moi, je l'explique
de la part des gens qui ont été victimes.
Absolument.
Merci beaucoup, Claude.
Merci à vous. Au plaisir de danser avec vous, Benito, un jour.
J'ai dit bon vent à Benito.
Merci.
Jusqu'à ce que l'album ne sorte en septembre 2025.
Merci.
Restez à l'écoute.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
On vous revient. Je vous reviens après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas.
vous entendez la complicité de Soul of Zoo qui est avec moi en studio ici avec les artistes qui lui ont tendu la main, qui lui ont dit oui, on va aller avec toi pour ton premier album, Connexion. Ça dit tout, hein, ça traduit tout, cette collaboration, cette création de pont entre les différentes cultures. Alors, comment est-ce que tu as pu, ou bien c'est le projet qui a pu les convaincre, c'est pas toi qui les a convaincus, c'est-à-dire les pères artistes que tu as pu contacter, qui sont tout le temps avec toi sur cet album-là, Soul of Zoo.
Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir ici. Oui, l'album Connexion, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur à vouloir collaborer avec toutes les cultures, toute la diversité qu'on a à Montréal. Et naturellement, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à des endroits à Montréal, qui m'ont fait découvrir des musiques, des concerts. Le premier en date, c'était un concert de Cora Flamenca entre Zal Sissoko et Caroline Planté, une fusion entre le flamenco et les chants mandingues avec la Cora. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit à me dire ah, j'aimerais vraiment continuer vers quelque chose où je fais fusionner ma musique avec différents rythmes, différentes cultures. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi Nuit d'Afrique en même temps. Et naturellement, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer Zal, qui m'ont fait rencontrer Matteo, puis Jelly Tapa, grâce à Zal aussi.
Toute cette clique-là.
Et l'échange aussi, c'est vraiment l'échange humain, c'est pas uniquement la culture, c'est vraiment l'échange et l'ouverture que l'on a voulu se donner au niveau artistique. On n'a pas voulu s'imposer notre musique de base. Jelly Tapa a son projet qui peut être un peu plus des fois ben traditionnel. Moi, j'ai mon projet plus électronique et on a vraiment voulu partager des intentions, des émotions et voir si on pouvait connecter. Et pareil avec Matteo. Puis, on voulait juste faire une collaboration. Puis, ça a terminé qu'on a fait 3 collaborations chacun sur l'album. Donc, c'est la beauté de la connexion avec l'être humain.
De cette création de pont entre les différentes cultures.
Exactement, c'est ça. J'aime créer des ponts entre les cultures et puis laisser l'espace à l'artiste de pouvoir exprimer son identité, ses émotions, son intention. Donc, j'essaie toujours de laisser de l'espace à travers les bases de fondations rythmiques ou d'arrangements que je peux créer pour que l'artiste, avec une intention, que ce soit une intention émotionnelle ou une intention plus harmonique, puis l'émotion que la personne va ressentir à travers cette petite fondation, on va partager une histoire. Puis pour moi, chaque morceau représente une rencontre, une histoire entre nous. Et c'est... pour ça, d'où le nom
Connexion. Chaque morceau, c'est un univers en soi. C'est un monde à part.
Exactement.
Ouais, moi, quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, wow, où est-ce qu'il nous emmène ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Il nous fait voyager comme ça, à travers les différences, les collaborations qu'il a eues avec ses artistes. J'ai tout écouté. Et j'ai aimé tout ce que j'ai écouté. J'aime bien l'album complètement. Je me suis dit, waouh, il faut le faire. Hein. D'abord, il faut arriver à convaincre les gens qui sont en face de nous de faire ce travail de connexion.
C'est pas simple, mais quand c'est naturel, quand c'est spontané, je pense qu'il y a un ressenti et une confiance. On sort d'une zone de confort, on se laisse, on fait confiance. Mais quand ça vient naturellement et que les rencontres se font d'une manière spontanée, qu'il y a pas, on s'impose rien, on se force pas, on respecte l'univers de l'autre, puis qu'on commence vraiment à échanger, je pense que ça nous a mis vraiment à l'aise à travailler ensemble, sans pression, sans attente.
Oui.
Et je pense que c'est pour ça que d'une collaboration, on a décidé d'en faire un peu plus.
Oui.
Parce que c'était juste naturel de continuer vers là.
Oh oui, et puis ça s'imprègne d'une certaine authenticité.
Exactement.
Quelque chose comme ça. Waouh. Non, mais c'est même pas encore mondialement dévoilé. Hein.
Non, pas du tout. Ça sort vendredi sur toutes les plateformes. On a quelques premières qui sont déjà sorties sur Spotify, mais toutes les plateformes vendredi premier.
Le 1er mai.
Ouais. Exactement.
C'est ça. Bravo à toi et à toute l'équipe en arrière.
Merci beaucoup.
Parce que là, vraiment, il faut le faire. Hein. Ouais. Parle-nous un peu de ce... Après le lancement, le samedi 2 mai, là, de 17h à 22h, dans la salle Maison Martin située à la rue de la Montagne.
Oui, ça, c'est...
Comment tu as pu organiser ça, cette soirée, ce truc intime d'écoute?
Pour être honnête, je voulais pas organiser de lancement. Malheureusement, Jelly ne sera pas présente.
Oui.
Mathéo sera là, mais je voulais pas forcément le faire. Puis grâce au label Cosmovision Records et Don Mescal Thibault, c'est lui qui m'a vraiment poussé à me dire, écoute, il y a pas de pression, il y a pas d'attente. On fait une petite. J'avais l'occasion d'avoir cette salle via une amie, donc c'est vraiment, je la remercie ici.
Wow.
Et on va installer un système de son, un bon système de son pour que les gens puissent écouter l'album dans des bonnes conditions.
Oui.
Mais c'est ça, j'avais pas forcément d'attente à vouloir faire ça, mais mes amis et le label m'a vraiment dit, écoute, après tout le travail que t'as fourni depuis un an et demi, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression à avoir, c'est juste du relâchement, c'est juste de la célébration entre amis, entre musiciens.
Oui.
Et justement, qu'on puisse connecter tous ensemble après avoir créer et partager des bons moments en studio, c'est le moment de se retrouver dans une petite salle et puis de l'écouter tous ensemble et de se remémorer les bons moments et de célébrer.
De 17h à 22h.
C'est ça, c'est ça. Tout le monde est invité. Prenez la réservation sur l'événement. Il y a encore quelques places disponibles.
Comment on se sent quand on a fait un travail comme ça et puis bon, ben, c'est bientôt. Voilà. Le 1er mai, le 2 mai, comment on se sent en tant que l'homme derrière ce projet?
C'est pas facile. Je viens d'un milieu beaucoup plus électronique. Où j'ai l'habitude.
Comment tu te regardes actuellement?
Je me dis, waouh, de me retrouver ici pour parler de ça avec vous, c'est quelque chose d'incroyable pour moi déjà. Mais je n'arrive pas encore à me placer, où est-ce que je m'en vais après cet album, comment je vais continuer au niveau artistique. C'était un projet vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, pour le moment, je vis chaque jour et je profite de ce qui se passe avec la sortie qui approche et de la manière dont on partage les chansons au monde. Et puis, je vais pouvoir regarder derrière moi bientôt et me dire, OK, ouf, qu'est-ce que la prochaine étape, où est-ce qu'on avance avec la musique et comment on évolue et on essaye de créer quelque chose de différent après tout ça.
Est-ce que tes amis qui n'évoluent que dans le milieu électronique, ils ont découvert, ils n'ont pas encore écouté?
Si, il y en a quelques-uns qui ont écouté.
D'accord.
Il y en a quelques-uns, oui, j'ai partagé.
Comment ils ont réagi? Comment ils ont...
Mais il y a beaucoup de mes amis qui ont été surpris, mais qui m'ont vraiment dit, waouh, c'est formidable que tu puisses être aussi ouvert et accueillir des genres et des univers complètement différents de ce que j'ai pu avoir l'habitude à faire en club.
Mais le titre de l'album dit tout, Connexion.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Moi, c'est vraiment... Je suis quelqu'un de très multidimensionnel. J'aime la connexion humaine et il n'y a pas un milieu préférentiel. J'aime toute la diversité, j'aime tous les rythmes, toutes les cultures.
Oui.
Et qu'il n'y a pas de... Moi, je peux connecter avec l'être humain dans n'importe quelle circonstance. Pour moi, l'album Connexion, ça représente vraiment toute cette diversité avec l'humain et les échanges qu'on peut avoir avec les émotions, avec nos intentions, plutôt qu'un style ou même juste une culture.
Ça se retrouve dans cette œuvre, hein, dans cet album.
Exactement.
Ça se retrouve là-dedans. On n'a même pas besoin de te connaître en écoutant seulement l'album, même sans voir une photo de toi. Tu vas te dire, ça, c'est une personne qui adore ou bien qui aime les relations interpersonnelles, l'humain, en gros. Tout court.
Exactement.
Voilà. Sinon, tu peux pas faire un truc comme ça.
Non, mais c'est ça. J'ai vécu en banlieue parisienne pendant 23 ans. Puis j'ai toujours été entouré de cultures africaines, maghrébines, caribéennes. Et de ces musiques et de ces énergies. Et j'ai toujours été attiré et curieux de ce qui pouvait se passer dans le monde à ce moment-là. J'étais fermé dans ma banlieue en France, Paris. Puis dès que j'ai commencé à voyager et puis à rencontrer du monde, différentes cultures, différents paysages, c'est juste là que tout a pris un sens pour moi et la musique était déjà avec moi depuis quelques années et l'émotion qu'elle me donnait, il fallait que justement je me sers de toute cette connexion et de toutes ces rencontres que je fais pour avancer musicalement dans mon projet.
Oui. Mathieu, on écoute deuxième pièce de l'album? C'est lequel que j'ai choisi là comme deuxième pièce? Je vis pour le moment. Merci.
porte se ferme, une autre s'ouvre à lumière. L'avenir se dessine rempli de mystères. Les clés sont en nous. Suffit de chercher à travers les échecs. La réussite est cachée. Les opportunités naissent des centres du passé. Mille portes étaient fermées, mille autres sont ouvertes à jamais. Chaque pas nous rapproche de notre destinée. Les portes s'ouvrent en grand, l'horizon est éclairé. Porte à franchir, de rêves à réaliser.
Je vis pour le moment, en travaillant la sueur au front. En attendant que je pète la forme et me faire des sous en performant. Je me stresse pas, pas les tracas. Je me colle pas, oh je ne sais pas. Pas à pas, mes efforts vont me récompenser. En attendant, j'investis. En attendant, oui je dépense. Je prends de l'avance, c'est plus comme avant. Le même radical avec un autre élan. Sois excellent, et si bas, ni salou. Aïe, gabaye, qu'un ni bon, ni go, que voilà. Sois excellent, et si bas, ni salou. Aïe, gabaye, qu'un ni bon, ni go, que voilà. Sois excellent, et si bas, ni salou. Aïe, gabaye, qu'un ni bon, ni go, que voilà. Ni go, que voilà. Ni bon, ni go, que voilà. Ni bono ni go ke gwalu.
Complicité, belle collaboration artistique avec Al Radic. J'ai vu pour le moment. Ouais, c'est beau, hein, tout ça.
La seule chanson en français que...
Il n'y a pas une autre en français?
Non, il n'y en a pas une autre. C'est le seul morceau français de l'album.
Oui. Wow. Comment lui, il a vécu ça, cette expérience avec toi?
On avait déjà collaboré sur une chanson pour le même label Cosmovision Records il y a quelques années.
Oui.
Une chanson qui s'appelait Mentalité sur une compilation qu'on avait créée. Et pour moi, c'était tout naturel de l'inviter pour une collaboration pour cet album. Justement, il est aussi dans son propre univers.
C'était pas la première collaboration.
Non, c'était pas la première. Mais c'est vraiment un univers qu'il apprécie de s'approcher de la musique électronique et de pouvoir sortir de sa zone de confort. C'était quelque chose... C'est toujours un challenge, mais à la fin de la journée, quand on se challenge à sortir de sa zone de confort, on a un sentiment fort qui nous envahit.
C'est quelque chose d'accompli.
Exactement, on se sent beaucoup plus accompli. Et ça, c'est ce qu'on partage entre musiciens, entre collaborateurs à chaque fois. Et puis à la fin de la journée, on se regarde, on fait « Ok, c'est beau ce qu'on a vécu. »
On l'a fait. On l'a eu, on l'a fait. Ouais. Et puis ça fait penser à d'autres projets aussi, quoi. À d'autres nouveaux projets, voilà. Zal avec sa kora. Tu connaissais l'instrument, tu connaissais la kora déjà avant d'avoir rencontré Zal, ou bien c'était une découverte pour toi aussi dans ce milieu d'instruments à cordes?
Grâce à un ami, j'ai rencontré une dame qui jouait de la kora.
Oui.
Puis cette dame m'a vraiment parlé de Nuit d'Afrique. Puis
ici à Montréal?
À Montréal, oui.
C'est qui, c'est une Québécoise?
Je ne me souviens plus de son nom. Je suis désolé. Elle avait un nom différent sur les réseaux de son vrai nom. Elle ne voulait pas garder son vrai nom et j'ai été complètement mélangé. C'était vraiment d'une rencontre, d'une soirée. Mm-hmm. Mais ça m'a ouvert la. J'ai été curieux d'en apprendre un peu plus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert Nuit d'Afrique, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Zal Sissoko, puis son projet Cora Flamenca.
Oui.
Et à ce moment-là, j'ai continué à vraiment diguer, à vraiment m'intéresser à tout le catalogue de Nuit d'Afrique. Et, Et pour moi, Zal Sissoko, c'était vraiment la première artiste de Nuit d'Afrique que j'ai vraiment rencontrée, que j'ai vraiment participé à son concert. Donc, je l'ai invité à une collaboration, puis il a accepté. Puis on n'avait pas forcément d'attente. On n'avait pas répété, on n'avait rien fait. Je lui partageais des fondations rythmiques avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'il puisse s'exprimer, que ce soit au niveau harmonique qu'au niveau rythmique. Parce que la chora, c'est quand même très rythmique. Puis Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses.
Ces genres de collaboration, ça donne les meilleurs résultats.
Exactement. Puis il était vraiment très professionnel. Puis il tenait vraiment bien le tempo. On accélérait, puis il tenait super bien le tempo. Et on n'a jamais vraiment pendant quelques heures.
Wow.
Puis à la fin de cette session, on était vraiment à se dire, là, il y en a pour au moins 3 ou 4 chansons. On peut faire tellement de choses avec tout ce qui m'a joué.
Mais ce n'était pas ton but, c'est pas ce que
non,
tu voulais faire.
Non, pas du tout. Puis on a eu l'occasion de l'enregistrer au micro aussi, chanter en mandingue. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, de pouvoir l'enregistrer sur la chanson Canou.
Oui.
Où ça parle d'amour. Et ça, c'était vraiment quelque chose... Après cette session, je voulais vraiment collaborer avec Jelly pour qu'il y ait vraiment une fusion entre Jelly et Zal avec la voix en plus de la chora.
Et ils se connaissent depuis belle lurette. Ouais.
Puis c'est ça, c'est la famille Agriot, donc ils sont vraiment connectés. Puis je le savais même pas, quand Jelly est arrivée, elle m'a commencé à me parler de sa relation avec Zal. Je le savais même pas, donc je trouvais ça tellement, comme tu dis, la connexion naturelle, spontanée, c'est les choses ça, se font naturellement. Ça. Fait que c'est ça avec Zal, ça s'est passé de même.
Oh, génial, génial. Est-ce que ce monde de l'électro, là, comment toi tu es arrivé à ce monde d'électro avant d'avoir cette idée de connexion là? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique électronique au fait?
C'est vraiment, pour moi, la musique électronique, ça a commencé vraiment très jeune. Dès que j'ai eu la majorité pour aller en club, ça a commencé ici. C'était vraiment une échappatoire pour moi. Une manière de m'échapper, une manière de ressentir des émotions à travers une musique. Fermer les yeux sur un dance floor, me laisser partir, c'était pour moi toute une thérapie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la musique électronique. Puis pour moi, je regardais le DJ à chaque fois, j'étais vraiment derrière le DJ, je me suis dit, mais comment on peut avoir cette force de pouvoir partager autant d'émotions avec la musique.
C'est tout ça qui fait que tu es devenu DJ, toi.
C'était
aussi
quelque chose qui était inconcevable pour moi. Jamais je ne pourrais me retrouver à la place de ce DJ-là. Je me souvenais derrière à danser. Je me disais, mais comment il fait pour être là? C'est tellement fort. Enfin, j'étais quelqu'un d'introverti à ce moment-là. Je me suis dit, mais je ne pourrais jamais faire ça. Puis quand il y a une force naturelle à l'intérieur qui te pousse à sortir de ta zone et puis à apprendre et puis à découvrir et puis à continuer.
Oui.
Et à ce moment-là, un lundi matin, après avoir passé une fin de semaine sur le dance floor, je me suis réveillé, je me suis dit, OK, je veux avoir mes premières platines et puis
c'est
apprendre. Puis à ce moment-là, c'était impossible pour moi de juste être DJ. Il fallait aussi que je m'intéresse à la production de musique électronique et donc l'aventure a commencé ici. Puis petit à petit, on a commencé à créer des morceaux électroniques. Puis à un moment donné, on comprend qu'on peut aussi enregistrer des musiciens, on peut aussi collaborer avec d'autres personnes. Puis on se rend compte que les possibilités et les connexions sont infinies. Puis on peut faire vraiment, il n'y a pas de limite avec la musique.
Et voilà où tu en es.
Exactement, avec connexion.
Avec connexion. Alors, ce que je voulais savoir encore, Mathéo,
oui.
Et aussi, comment tu la rencontres, cette fête?
Mathéo, c'est une amie qui m'a parlé, qui me disait que je pouvais facilement collaborer avec Mathéo. Elle ressentait qu'on avait des énergies vraiment, vraiment qui pouvaient matcher entre nous. Puis je l'ai écouté, on a écouté sa musique avec mon ami. Puis je me suis dit, OK, oui, ça serait intéressant de pouvoir collaborer avec Mathéo. Puis la vie, on est occupé, le temps passe si vite. Puis... On se contacte pas, on se parle pas. Puis un jour, dans le hall de mon studio, on est plusieurs petits studios, puis un petit hall. Puis un jour, je sors de mon studio, je suis dans le hall, et puis je croise Mathéo qui était là pour enregistrer avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et je fais, Mathéo, je suis content de te rencontrer, j'ai tellement entendu parler de toi, de mon ami. Je suis en train d'enregistrer un album, j'aimerais savoir si ça t'intéresserait qu'on passe un moment ensemble, qu'on partage quelques intentions, et puis qu'on voit si on est capable de s'ouvrir l'un à l'autre pour faire quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de faire de notre côté. Mathéo a été enchanté de tester l'aventure avec moi, et puis on a commencé à enregistrer nos premières chansons qui s'appelle Bonbon.
Oui.
Et en 3 heures, c'était fait. C'est incroyable la manière dont ils travaillent avec la guitare. Puis à un moment, on commence à écrire les paroles ensemble, on commence à l'enregistrer dans le booth. Puis tout se fait d'une manière si facile avec Matteo. C'était incroyable. Puis l'émotion, puis l'élégance, et puis c'était très chaleureux. Non, ça reste vraiment un de mes coups de cœur aussi dans l'album.
Ouais, ouais. On va terminer en beauté avec Canou.
Canou.
Complicité.
On va parler
avec,
d'amour.
Ouais.
On va parler Julie d'amour.
et toi.
Exactement.
oui, on pourra l'écouter, c'est la dernière. Merci à toi, Mathieu.
Merci à vous deux.
Oui, on dit merci à Claude qui est passé en première partie d'émission. Oui, et puis bon, merci à toi, Soul of Zoo.
Merci encore.
Avec ce bel album de collaboration en connexion.
Merci.
Le premier, oui, ça c'est vraiment quelque chose. Et puis, à nos fidèles auditeurs, on leur dit merci de leur fidélité, de prendre soin de leurs minutes et de leurs secondes. Et sur ça, je leur dis ciao.
Chaya mana manaka mana manaka ufuku faru tisi utisi kanusira kamika imolo kanusira tumamina imolo kanusira Se la ley.